Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre. Il est midi et demi, vous êtes sur le 102.4 à Évreux, principe actif, et vous avez rendez-vous avec Biblio Plus Plus. Au nom de toute l'équipe, je tiens à vous souhaiter nos meilleurs voeux, une bonne année 2026, tout ce que vous souhaitez. Voilà, on est là pour vous accompagner encore cette année. On poursuit donc nos émissions. Troisième rendez-vous, troisième vendredi de chaque mois. Et puis bah, pour préparer cette émission autour de moi, donc j'ai Nadège. Bonjour Nadège.
Bonjour Fred, bonjour JC et bonne année à tous.
Et puis JC aux manettes, le commandant de bord.
Eh ben merci pour cette présentation. Bonjour Frédéric, bonjour Nadège. Et bien entendu, les meilleurs vœux. Plein de surprises, c'est ce qu'on s'était dit avant de prendre l'antenne.
Exactement.
On voulait de la découverte et des surprises.
Voilà. Et donc pour démarrer cette année, bah, on a une émission très riche encore aujourd'hui à vous proposer. On commencera cette émission avec les temps forts qui vont être concentrés sur la programmation du réseau des médiathèques, donc Biblio Plus Plus, le réseau des médiathèques municipales d'Évreux en partenariat, en coproduction avec Principe Actif, bien sûr. Et donc cette programmation, eh bien, elle va revenir sur la 10e édition des Nuits de la Lecture. Donc ça, ce sera la première partie de l'émission. En deuxième partie d'émission, Nadège.
En deuxième partie d'émission, nous avons aujourd'hui comme invités Natacha Aurig et Zoé Delacour, qui sont nos collègues des musées. Et elles seront là pour nous parler de l'exposition Résonance Guillaume Costelet et l'orgue du musée d'Évreux. Je n'en dis pas plus.
En troisième partie d'émission, eh bien, c'est moi-même qui reviendra sur la chronique de l'actualité culturelle extérieure. Je vous parlerai de la soirée Bowie qui vous attend ce soir sur la chaîne Arte. Et puis nous terminons cette émission avec les coups de cœur. Les coups de cœur aujourd'hui consacrés à deux livres documentaires que je vous présenterai également autour de la musique et du cinéma. On y reviendra en détail. Mais pour commencer, démarrer cette émission, eh bien, c'est la rubrique habituelle lecture.
Ma mère passe les vitesses doucement. À l'embranchement vers l'Aiguillon et au prix d'une association d'idées demeurée opaque pendant toute une bonne décennie, elle se souvient qu'une Émilie a appelé ce matin quand j'étais encore au lit, pour confirmer qu'elle arrivera le 14 juillet. 14 moins 9 égale 5, c'est ce que je me dis. J'ai 5 jours pour me débarrasser du poids qui pèse, dont 5 fois 8 heures de sommeil pendant lesquelles aucun chantier n'avance. Pas une seconde à perdre donc, et moi je m'en vais jouer au tennis comme un mollusque. Est-ce que le Tché a fait valoir qu'il avait tennis quand Fidel lui a demandé de le suivre à Cuba? Non, il a pris ses responsabilités. Les 3 coups réquisitionnés par le tournoi pullulent de joueurs dont une proportion importante se la pète dès l'échauffement. Mon short me sert, il date de 1983. Chez les fonctionnaires de gauche, on consomme avec parcimonie, sauf les biens spirituels comme les 33 tours de Mouloudji. Il est blanc et court, alors que cette année, la panoplie de tennis a commencé à se colorer et s'allonger. Comme par hasard, Antoine Lamoricière, qui signe la feuille d'inscription, s'est mis à la page. Les bourges sont toujours habillées à la mode. Antoine Lamoricière habite le centre d'Angers et sa grand-mère, une villa de 5 étages à la Tranche-sur-Mer, donc il porte un short large et noir. L'an dernier, je l'ai battu en finale. Il est mieux classé, mais j'avais tous les damnés de la terre derrière moi, tous les forçats de la fin, et je les sentais m'encourager et réprouver les vociférations de ces teignes de parents sur chaque point litigieux. Après la remise de coupe, je l'ai traité de suppôt du capital. Je ne comprends pas cette expression, mais je la trouve idéalement illustrative. Le suppôt du capital entre dans le cul du prolétariat pour le ponctionner. Mais tu verras un jour, ce sera le contraire, et alors bonjour les dégâts pour toi et ta clique, Antoine Lamoricière, short noir, mi-long. Mon adversaire du jour s'avère dijonnais et assez nul au tennis, ce qui tombe mal pour lui et pas si bien pour moi. Ça va me compliquer la tâche parce que j'ai décidé de perdre, histoire de me débarrasser de ce tournoi et de me donner les moyens d'écrire les plus belles pages estivales de ma vie.
La blessure, la vraie, François Bégaudeau, aux éditions Verticales.
Move my things around, color coding.
l'instant My Soul I've Painted de Dry Cleaning. Et vous écoutez Biblio Plus Plus, c'est une bonne idée. Et donc les temps forts dans cette émission aujourd'hui qui vont être entièrement consacrés à la programmation de ce mois-ci très très riche et notamment dédiée aux Nuits de la Lecture le samedi 24 janvier. La 10e édition des Nuits de la Lecture va donc mettre en avant la thématique ville et campagne pour cette édition. Longtemps opposée dans les représentations littéraires, la ville et la campagne ont inspiré de nombreux récits, du roman au polar, en passant par la poésie et la science-fiction. Tandis que la ville, lieu de réflexion sociale et morale, nourrit l'imaginaire urbain, la campagne interroge notre rapport à la nature et à la terre. Aujourd'hui, les enjeux liés à la transition écologique redéfinissent les liens entre ces deux espaces. Les auteurs et autrices contemporains explorent ces relations à travers les questions de territoire, d'habitat, de mobilité et d'identité. Et au programme donc de cette 10e édition des Nuits de la Lecture, donc des spectacles, des concerts, des lectures évidemment, une exposition encore en cours dont on va parler. Et justement, pour démarrer cet ensemble de programmation, le samedi 24 janvier à 16h, vous pourrez profiter d'une visite et d'un atelier, l'imprimerie à Évreux, une tradition quadricentenaire, donc une exposition qui avait démarré l'automne précédent. Et vous pourrez vous laisser guider lors de cette visite de l'exposition et expérimenter ensuite la fabrication d'un caractère mobile en linogravure. Cette Nuit de la Lecture vous propose de revenir sur cette exposition et avec notre équipe de la bibliothèque patrimoniale. Voilà, cette exposition court jusqu'au 25 janvier et c'est sur réservation, ça faut le préciser. C'est ouvert aux familles, donc voilà, enfants et adultes, n'hésitez pas, profitez-en, rapprochez-vous de nos équipes. On poursuit, Nadège.
Et oui, et puis toujours le samedi 24 janvier, puisque nous sommes sur cette soirée riche des nuits de la lecture. À 17h, vous pourrez retrouver un spectacle pour les plus petits, un spectacle d'ombre et de lumière, sur la thématique entre ville et campagne. Un spectacle visuel qui propose une exploration sensible des contrastes entre deux environnements, à travers des jeux d'ombre et de lumière, des images projetées, des sons familiers. Les trois interprètes, nos collègues Magali, Frédéric et Christophe, donnent vie à des scènes évoquant les paysages ruraux et urbains. Une proposition poétique et immersive conçue pour éveiller l'imaginaire des tout-petits. Donc c'est à destination des 0-6 ans. Et puis c'est sur entrée libre, dans la limite des places disponibles.
On poursuit ensuite à 18h, donc à la médiathèque Roland Plaisance, puisqu'en fait toutes ces propositions autour de la Nuit de la Lecture ont lieu sur le centre-ville. Et on vous propose à 18h un atelier de béton et de terre, c'est l'intitulé de cet atelier. Avec cet atelier, vous pourrez explorer les liens entre paysage et émotion lors d'un atelier d'écriture ouvert à tous. À partir de descriptions de paysages urbains ou ruraux, les participants s'initieront à différentes approches pour faire émerger des atmosphères et exprimer des ressentis. Des jeux d'écriture permettront d'expérimenter et faire comprendre de manière simple et accessible la manière dont un paysage peut traduire une émotion. Donc c'est à partir de 10 ans et aux adultes également.
Et puis à 18h, puisqu'il y aura plusieurs propositions qui s'adressent à différents publics, vous pourrez assister à des lectures à haute voix. Au programme de ces lectures, des extraits d'œuvres contemporaines pour découvrir les villes et les campagnes telles que des auteurs d'aujourd'hui les perçoivent.
Toujours à 18h, nous vous invitons à découvrir le spectacle « Les aventures de Tatsan ». C'est à destination du public jeunesse de 3 ans et plus. C'est proposé par Timothée Piguet. Inspiré de récits autochtones d'Amérique du Nord, ce spectacle mêle théâtre, conte et univers sonore pour revisiter la figure du corbeau chaman. À travers 4 histoires, il aborde des thèmes tels que les origines du monde, le rapport au vivant et les liens entre humains et animaux. Une proposition contemporaine qui interroge notre capacité à écouter les récits du monde. Alors, par contre, on vous précise bien, venez bien en avance, puisque la jauge est limitée, donc on vous invite à venir au moins 20 minutes à l'avance.
Un petit peu avant, de toute façon, il y a de quoi faire dans la médiathèque, et oui, tous les spectacles sont sur entrée libre, dans la limite des places disponibles, donc effectivement, il faut prévoir un petit peu. Et puis, cette programmation se poursuit à 18h30 avec une autre forme de lecture à voix haute qui s'intitule « Je me souviens », qui sera une lecture proposée par Rémi Brumand-Varly avec quelques personnes âgées du CCAS. C'est un projet qui a été réalisé avec une sélection de témoignages, également un travail sur le quartier de la Madeleine avec le CCAS. Donc, à partir de souvenirs collectés et d'échanges intergénérationnels lors de cette résidence d'écriture en partenariat avec le CCAS, les médiathèques, les résidents de la résidence autonomie de la Madeleine, un projet artistique est né, donnant lieu à la création de livres affiches mêlant texte et photographie sur le principe des « Je me souviens » de Georges Perec. Donc, cette forme un peu de lecture à voix haute théâtralise un petit peu ces « Je me souviens ». Et c'est le fruit d'un travail de plusieurs mois, émaillé de rencontres, d'échanges, de créations, qu'on souhaitait terminer par une fête des mots et d'images pour poser une pierre dans la construction d'une biographie positive du quartier de la Madeleine.
Et puis, pour clôturer cette 10e édition des Nuits de la Lecture, nous vous invitons à venir nombreux et nombreux pour assister à 20h au spectacle et concert intitulé Cats and Dogs, proposé en partenariat avec l'association Vénus in Feuze et le réseau des médiathèques. Au programme de cette proposition artistique, vous donc retrouverez un concert acoustique autour de reprises musicales inspirées par les chiens et les chats, qu'ils viennent de milieux urbains ou ruraux. Ce concert sera ponctué également de lectures à voix haute d'extraits du livre Stories of the Dogs, qui est un recueil de nouvelles noires consacré au groupe rouennais, les Dogs, et à son leader charismatique Dominique Laboudé, et également d'autres textes littéraires liés à cette thématique seront mis en avant. Vous pourrez ainsi découvrir les formations ou groupes suivants: Burn Project, Sorry Jim, Gang of Venus, O Arcs, Nudge, Dead Fat ou encore Marco, et donc découvrir des reprises de Nick Cave, de The Cramps, les Stray Cats ou encore Elvis Presley, pour ne citer que.
Et puis pour poursuivre, après les Nuits de la Lecture ou autour des Nuits de la Lecture dans les temps forts qui arrivent sur ces semaines de janvier, on poursuit avec le volet de conférences qui est proposé à la médiathèque Roland Plaisance. La première, intitulée « Les Normands en péninsule ibérique », est proposée, vous en avez l'habitude maintenant, par la Société Libre de l'Eure. Donc le samedi 24 janvier à 14h15, une conférence qui vous invite à découvrir une facette méconnue de l'histoire normande en péninsule ibérique. C'est Gilles Malgrin qui interviendra pour cette conférence et retracera les grandes étapes de cette présence du 9e au 13e siècle en la replaçant dans le contexte historique de la Normandie et de l'Espagne médiévale. Une exploration chronologique d'un épisode peu étudié mais riche d'enseignements.
Le lendemain, le dimanche 25 janvier à 16h, une seconde conférence intitulée « La justice universelle existe-t-elle ? » Cette conférence inscrite dans le cadre du cycle « Entrée en philosophie » vous proposera une réflexion autour de la philosophie politique de Léo Strauss. À partir d'exemples historiques et contemporains, cette philosophie interroge la possibilité d'une justice universelle au-delà des lois propres à chaque État. La pensée de Strauss invite à distinguer les faits sociaux des valeurs à penser en revisitant la notion de droit naturel, comme le nommé les philosophes de l'Antiquité.
Et puis le jeudi 12 février à 18h30, vous pourrez retrouver toujours à la médiathèque Roland Plaisance une rencontre formation proposée dans le cadre des jeudis LPO Normandie, la Ligue pour la protection des oiseaux, sur les espèces d'oiseaux visibles en Normandie. Ce sera autour de la thématique des rapaces nocturnes, les différentes espèces présentes en Normandie et leur mode de vie. Cette initiation ornithologique permet de mieux comprendre et de décrypter le monde sauvage qui nous entoure, de devenir ambassadeur de nature auprès de ses proches et de contribuer à l'étude de la biodiversité. C'est une action nouvelle en partenariat avec l'association Naturellement Reuilly également.
Et puis encore le dimanche 15 février à 16h, toujours dans le cycle Entrée en philosophie, la conférence « Comment vivre avec son corps » vous proposera d'aborder la manière dont le philosophe Maurice Merleau-Ponty envisage le corps, non comme un simple objet biologique ou technique, mais comme une expression sensible de notre rapport au monde. À partir d'exemples concrets, vous êtes invité à interroger ce que signifie être cher et comment le corps participe à notre manière de vivre, de ressentir et de comprendre.
Et puis on termine cette partie programmation avec le mercredi 18 février à 18h30. Donc on sera déjà dans les vacances d'hiver. Et vous pourrez retrouver la projection du film d'animation Le Tigre qui s'invita pour le thé du réalisateur britannique Robin Shaw. Adapté de l'album éponyme de Judith Kerr, ce film raconte l'histoire d'un tigre qui s'invite chez une famille pour partager leur goûter. Cette projection sera précédée de 3 courts-métrages autour du thème de l'animal et de l'imaginaire, donc à destination du tout public, surtout des plus jeunes, et ouvert à tous sans réservation dans la limite des places disponibles.
Voilà pour cette partie des temps forts. On poursuit en musique. To Wake de Wax Taylor. Wax Taylor qui sort aujourd'hui même ce nouveau single en avant-première d'un album qui sortira cette année et qui lance sa nouvelle tournée qui va démarrer par les États-Unis en février prochain. Wax Taylor qu'on avait eu la chance de découvrir notamment dans un cadre particulier il y a une petite vingtaine d'années dans la salle d'exposition du musée d'Evreux. Et on parlait justement du musée, et bien ça tombe bien parce que les invités d'aujourd'hui sont Natacha Roring et Zoé Delacour. Nous les recevrons toutes les deux aujourd'hui. Natacha Roring, conservatrice du patrimoine et directrice des musées d'Evreux Porte Normandie, et Zoé Delacour, chargée des collections au musée d'instruments de la couture Bouxé, pour parler de l'exposition Résonance Guillaume Costelet 1531-1606 et l'orgue du musée d'Evreux. Toutes les deux en tant que commissaires d'exposition. Bonjour et bienvenue et merci de répondre à notre invitation pour échanger autour de cette exposition. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
L'exposition Résonance Guillaume Costelet et l'orgue du musée d'Évreux est proposée depuis le 18 octobre dernier et présentée jusqu'au 1er mars prochain au musée d'art, d'histoire et d'archéologie d'Évreux. Cette exposition est dédiée à l'univers musical de la Renaissance. Ce double parcours à retrouver au rez-de-chaussée et au premier étage du musée met en lumière deux éléments singuliers du patrimoine musical ébrouissien, le compositeur Guillaume Costelet et un orgue de cabinet dit orgue de Créton ou encore orgue de Languedul, si je prononce bien. La figure donc d'un grand musicien local et l'étude d'un instrument unique entrent ainsi en résonance à travers de nombreux liens historiques, sociaux et culturels qui se tissent entre l'évocation des domaines de l'orgue, de la chanson polyphonique, profane ou sacrée, et de la poésie qui les accompagne, permettent d'appréhender la richesse de l'héritage musical. Alors pour commencer cet échange entre nous, j'ai envie de vous poser comme première question, la genèse de ce projet, comment est-il né? Comment est né le projet de cette exposition, justement, Résonance, dédiée à l'univers musical de la Renaissance, dont le terme de vocabulaire Résonance possède un double niveau de lecture?
Oui, tout à fait. Alors, je dirais que la première volonté que nous avons eue, c'était justement de mettre à l'honneur deux sujets emblématiques, finalement, du patrimoine musical local ébrouissien, roi. Donc ça a vraiment été ce premier enjeu-là, sachant que le compositeur Guillaume Costelet n'avait encore jamais fait l'objet d'une exposition. Donc voilà, c'était aussi l'occasion de se repencher sur cette figure-là. Il y a bien eu un colloque en 2008 dédié à ce compositeur, mais rien depuis. Donc voilà, on a voulu faire un petit peu le point sur lui et mettre en résonance un orgue qu'on conserve dans les collections du musée, qui était visible au niveau du premier étage et sur lequel on se posait beaucoup de questions et qui en fait date de la même époque, c'est-à-dire que Guillaume Costelet a ce moment un peu charnière entre Renaissance et ère baroque, hein, fin du XVIe siècle. Donc voilà, c'est un petit peu la volonté qu'on a eue et puis d'interroger finalement ces deux figures en les remettant dans leur contexte de cette époque-là.
Et c'était aussi l'occasion de mettre en relation nos deux musées à travers un projet commun. Donc c'était une belle occasion pour ça.
Et justement, on parle de Guillaume Costelet, ce compositeur qui honore le patrimoine musical ébrouissien, qui est représenté par cette exposition. Que connaît-on de sa vie, de son œuvre exactement?
Alors, Guillaume Costelet était organiste du roi. Il est principalement connu pour cette activité dans les archives royales, mais toute son œuvre se concentre surtout sur les chants polyphoniques. C'est toute la trace qu'on conserve de son activité. Dans les archives royales, il y a l'aspect organistique, mais toutes les publications montrent en fait toute son activité en tant que compositeur pour les chants à plusieurs voix. Donc, il était actif sous les règnes de Charles IX et d'Henri III, donc entre les années 1560 et les années 1580.
Et donc il est rattaché, en tout cas il a un lien vraiment très fort avec la ville d'Évreux. On parle donc de lui comme donc organiste et en même temps est-ce qu'il était originaire d'Évreux? Est-ce qu'on sait son lieu d'origine, sa ville de naissance?
C'est vrai que c'est un homme aussi plein de mystères encore, je dirais, Monsieur Costelet. Il a été redécouvert au XIXe siècle et il y a eu beaucoup de légendes un petit peu qui ont circulé, de fausses informations aussi, avant qu'on se penche un peu plus sérieusement, on va dire, sur lui. Il semblerait qu'il... Alors, il n'est pas d'Évreux, il n'est pas né à Évreux, mais il semblerait qu'il soit né du côté de Pont-Audemer. Donc, il est quand même... roi. voilà. Et après, il s'est installé à Évreux en 1570. Voilà. Mais peut-être, Zoé, tu veux préciser un petit peu justement sur ce mystère.
Oui, c'est un grand musicologue qui a redécouvert il y a 100 ans des archives qui mentionne un Guillaume Costelet à Pont-Audemer. Donc en fait, ce serait le grand-père de Guillaume Costelet qui était originaire de cette ville. Et il en a déduit que Guillaume Costelet était aussi né à Pont-Audemer. Et sinon, en fait, l'activité de Guillaume Costelet à Évreux, elle est vraiment... dans la seconde moitié de sa carrière, à partir de 1570, et c'est là qu'il va développer plein de projets, notamment à la cathédrale, avec une confrérie et ensuite l'organisation d'un concours.
Eh ben justement, donc par rapport à la confrérie, puisqu'on parle dans votre exposition de la confrérie Sainte-Cécile, quand on évoque cette confrérie, en quoi consistait-elle exactement qui l'a composée ?
Alors la confrérie Sainte-Cécile, elle a été créée en 1570. On a la chance de conserver quelques archives aux archives départementales à son sujet. Et on sait justement un petit peu les membres qui l'a composée. Et c'est une confrérie assez éclectique parce qu'on a des personnalités qui ont différentes situations. On a un grand nombre d'ecclésiastiques, mais on a aussi des personnes, des seigneurs, des nobles, ou encore des personnes qui ont des fonctions un peu plus judiciaires, des avocats, des procureurs, etc. Donc voilà, c'est une société assez hétéroclite, j'ai envie de dire. Voilà.
Et dans lié à cette confrérie, il a quand on parcourt votre exposition, on se rend compte qu'il a été à un moment donné nommé en tant que prince de la confrérie. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Ça consistait en quoi d'être prince de la confrérie ?
Alors chaque année, la confrérie élisait un prince. Alors c'est un titre surtout honorifique. Hein. En fait, le prince avait certaines fonctions un petit peu plus particulières. Alors sa fonction principale, c'est d'organiser le banquet qui a lieu à la fin du puits de musique. Donc le puits de musique, c'est ce concours que la confrérie va organiser à partir de 1575, donc 5 ans après la création de la confrérie. Donc lui, il organise le banquet, alors généralement chez lui. Voilà, c'est un peu sa fonction principale. C'est une fonction honorifique aussi. On vient honorer une personnalité qui appartient à la confrérie. Et puis il a d'autres petites responsabilités, notamment tout ce qui va l'éclairage, la décoration dans l'organisation du puits de musique. Voilà.
Et justement, le puits de musique donc à Évreux, qui avait lieu, qui était organisé, est-ce qu'il a attiré beaucoup de monde ? Est-ce que c'est